Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Depuis dimanche dernier et jusqu'au 12 novembre prochain, se tient la COP26 à Glasgow, en Écosse. C'est un rassemblement annuel de plus de 190 dirigeants du monde entier, organisé par les Nations Unies, la première fois en 1990, afin de trouver des accords et signer une convention internationale au sujet de l'environnement. À cette occasion, je me suis donc posé la question de savoir si le sport était éco-responsable. Et malheureusement, même s'il a de nombreux bénéfices, que ce soit au niveau physique, physiologique, psychologique ou social, je vais répondre directement à cette question. Non, le sport, ou du moins la pratique que nous en avons aujourd'hui, n'est pas éco-responsable. Pour autant, le sport n'est pas inactif face à cela. Analyse dans cet épisode de Parlons Sport.
Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion.
L'environnement est un sujet régulier et même quotidien dans l'actualité. Hausse des températures, catastrophes naturelles, changement de la biodiversité. L'homme a eu un impact considérable sur la planète sur laquelle il vit, notamment depuis 1890 et la révolution pré-industrielle. C'est une date importante puisque c'est la température de référence pour les discussions de la COP26, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré Celsius par rapport à cette date et absolument ne pas dépasser les plus de 2 degrés qui seraient catastrophiques pour la planète. En juillet dernier, la WWF a d'ailleurs publié un rapport sur les conséquences de l'augmentation de la température à plus 2 et à plus 4 degrés Celsius, expliquant que le nombre de jours avec une pratique extérieure déconseillée à cause de la canicule augmenterait considérablement jusqu'à 60 jours supplémentaires, que la durée d'enneigement diminuerait d'un mois et que le manteau neigeux des Alpes diminuerait de 30 à 80% par rapport aux valeurs actuelles. Une centaine de clubs de sport maritimes pourraient fermer à cause de la montée des eaux, tout comme 60 000 salles de sport car elles ne seraient pas adaptées aux fortes chaleurs et que des rénovations devraient être réalisées. Enfin, des conséquences porteraient également sur la santé des sportifs avec une augmentation des risques de coups de chaleur, mais aussi une atteinte à leur système pulmonaire en raison de l'augmentation de la pollution. Le sport a bien évidemment joué un rôle dans cette hausse de la température, car comme je vous l'ai dit, il n'est pas éco-responsable. Déjà, et ce qui doit sûrement vous venir en première en tête, c'est le cas des courses automobiles et des courses motocyclistes. En France, le transport représente le plus grand facteur des émissions des gaz à effet de serre, avec un taux de responsabilité à 30%, et la voiture ne représente pas moins de la moitié de ces 30%. Alors oui, depuis plusieurs années, les instances dirigeantes de ces sports ont pris des décisions phares pour se rendre plus vert, comme la mise en place de la Formule E, l'équivalent de la Formule 1, mais avec un moteur électrique. En parlant de Formule 1, elle aussi a fait des efforts pour limiter la pollution, avec l'instauration de nouveaux moteurs qui a permis de diviser par deux la consommation des véhicules en moins de 10 ans, en passant de 90 litres pour 100 km en 2014 à 45 litres aux 100 km cette année. La transition vers les moteurs électriques dans le milieu automobile se fait néanmoins de plus en plus importante. Par exemple, en 2017, une première voiture électrique a complété le Dakar. En 2020, un premier camion électrique a pris part à la course et 2021 a marqué l'arrivée de la première moto électrique. Et bien, pour la prochaine édition, celle de 2022, qui aura lieu du 2 au 14 janvier, une nouvelle catégorie verra le jour, celle réservée aux camions et aux voitures 100% hybrides ou électriques. D'ailleurs, les organisateurs ont une ambition forte, avoir une course avec des véhicules 100% électriques dès 2030. Un dernier exemple en lien avec les sports automobiles, les championnats du monde d'endurance, avec la fameuse course des 24 heures du Mans, utilisera en 2022 un carburant 100% renouvelable fabriqué par Total Energy, produit sur une base de bioéthanol issu de résidus viniques en provenance de l'agriculture française, et de TBE issus des matières premières de l'économie circulaire. Selon la firme, le carburant devrait permettre une réduction d'au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste. Mais quand on pense au transport, ce sont tous les sportifs qui sont concernés. Prenons l'exemple du basket ou du baseball aux États-Unis. Les clubs ont un match tous les 2 ou 3 jours et se déplacent exclusivement en avion. L'impact écologie est donc énorme lorsque l'on sait que chacune des franchises joue 82 matchs en saison régulière en NBA et que ce chiffre monte même à 162 en MLB. Les sportifs professionnels ne sont pas les seuls à être concernés. Pensez à ces millions de sportifs comme les coureurs ou les triathlètes qui se déplacent dans un autre pays, voire même sur un autre continent pour réaliser une course. En 2019, le marathon de New York accueillait sur ses 50 000 participants 37% d'étrangers. Sur les championnats du monde d'Ironman d'Hawaï en triathlon, les participants venaient des quatre coins du monde. Et sur l'UTMB, course de trail et donc entièrement intégrée à la nature, un participant sur deux des 10 000 engagés venait de l'étranger. D'ailleurs, sur ces courses, la pollution ne concerne pas que le déplacement. L'impression et la remise des dossards demandent plusieurs dizaines de kilomètres de papier, les ravitaillements utilisent des centaines de milliers de bouteilles et de verres en plastique, sans parler des t-shirts finishers qui sont distribués à la fin de chacune des courses qui ne sont parfois même pas enfilés. Pour contrer ces problèmes, plusieurs initiatives ont été instaurées dans certaines courses. Les dossards ne sont plus envoyés mais remis en main propre. Des éco-cups sont remis aux participants au départ afin d'éviter les verres en plastique au ravitaillement. Et les t-shirts finishers sont devenus payants et doivent être précommandés afin de diminuer le nombre de distributions inutiles. Les t-shirts ne concernent pas que les participants des courses, mais également les supporters. Chaque saison, le Paris Saint-Germain vend plus d'un million de maillots, comme de nombreux grands clubs des championnats européens, le Bayern de Munich en Allemagne, le FC Barcelone et le Real Madrid en Espagne, ou encore Manchester United en Angleterre. À cela, il faut aussi rajouter les maillots des équipes nationales. Après le Mondial 98, le maillot avec la première étoile avait été vendu à plus de 800 000 exemplaires, et il faut compter le double pour le Mondial 2018 et la deuxième étoile. Pour revenir au sujet du transport, les fans aussi les utilisent afin de se rendre aux rencontres. Alors même si des stations de métro ou de bus permettent d'utiliser les transports en commun, l'utilisation de la voiture reste encore très importante. Là encore, des idées ont été apportées afin de limiter l'impact. C'est par exemple le cas de l'application et du site internet Stadium Go qui met en relation les fans afin de se rendre au stade de foot en covoiturage. De nombreux stades ont même prolongé les pistes cyclables jusqu'aux abords des tribunes et ont construit des espaces sécurisés et gardés pour les vélos. Cette information, en plus de me permettre de vous rappeler que j'ai sorti la semaine passée un épisode dédié à l'analyse du fléau du vol des vélos, me permet de faire une superbe transition avec le prochain sport, le cyclisme. Contrairement au sport automobile du début d'épisode, le vélo est un moyen de transport doux puisqu'il n'émet aucune émission des gaz à effet de serre. Alors certes, sa production en émet, mais à ce moment-là, on pourrait aussi apporter le fait que se déplacer en marchant ou à vélo fait dépenser plus d'énergie qu'en voiture et demande donc un plus grand apport nutritionnel et donc plus de pollution liée à l'agriculture et à l'élevage. Si la pratique du vélo est donc favorable à l'environnement, certains rassemblements qui l'entourent ne le sont pas. Prenez l'exemple du Tour de France. Les motos des gendarmes qui ouvrent la route, la voiture du directeur de course Christian Prudhomme, les voitures des directeurs sportifs qui suivent les coureurs, les bus qui transportent les équipes, les camping-cars qui suivent chaque étape de la course, les médias qui participent à sa diffusion dans le monde entier, ou encore la caravane publicitaire qui distribue des goodies le long de la route. Autant d'accompagnateurs qui font que d'un sport dans un premier temps respectueux de l'environnement, c'est devenu une bombe à pollution. C'est d'ailleurs ça le problème de ces compétitions à ampleur internationale, et c'est encore pire pour les Jeux Olympiques, puisque des structures spécifiques doivent être construites pour l'événement. Prenez l'exemple des Jeux Olympiques d'Athènes, où le complexe sportif est complètement à l'abandon. Cet été, à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, deux youtubeurs de la chaîne Gabriel et Corentin, qui font de l'exploration urbaine, appelée Urbex, ont sorti une vidéo intitulée « Le scandale des stades olympiques abandonnés des JO de 2004 », où ils visitent le site. Je vous conseille vraiment d'aller la visionner, vous vous rendrez compte de l'impact de l'événement. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Pour ce trio de 2016, de nombreux sites ont également été fermés faute d'entretien et ont donc échoué dans leur mission d'héritage. Les prochains Jeux Olympiques d'été, qui auront lieu à Paris, ont eux grandement affiché leur ambition environnementale en mettant en avant la sobriété lors de sa candidature avec l'utilisation de structures à 95% déjà existantes ou temporaires, mais aussi la durabilité avec la construction de sites qui seraient ensuite ouverts et utiles au grand public. À voir dans 3 ans de ce qui en sera de la construction, et dans 10 ans pour voir si l'ambition d'héritage a été atteinte. Vous l'aurez compris dans cet épisode, le sport est loin d'être éco-responsable. Que ce soit le sport à haut niveau, le sport à un niveau amateur, ou même le sport devant la télévision ou dans les tribunes, la pratique est néfaste. Entre les déplacements, les achats de vêtements et d'équipements, l'alimentation et le supporterisme, l'impact sur l'environnement est immense. Néanmoins, il existe de grandes disparités entre les individus et les pratiques. C'est pourquoi j'aimerais vous partager une dernière initiative, tout juste mise en place. le site internet monmatchcarbone.fr, le premier simulateur d'empreinte carbone dédié à la pratique sportive, sorti il y a tout juste 2 semaines par Game Earth, un programme de contribution écologique du sport professionnel. Il s'adresse à tous les acteurs du sport professionnel pour transformer leur impact environnemental en une action pour réparer la planète. Il calcule l'empreinte carbone de la fédération, de la ligue, du club, de l'organisateur d'événements ou encore du joueur, puis se mettent d'accord sur une contribution financière afin de la redistribuer à des entreprises à impact environnemental pour non seulement réparer la planète, mais également inciter les différents groupes à réduire leur empreinte environnementale. Eh bien, il y a 2 semaines, comme je vous le disais, ils ont sorti un simulateur grand public qui, je vous rassure, est entièrement gratuit et ne vous engage à rien. Il vous permettra simplement de connaître l'impact de votre pratique sportive sur l'environnement. Pour cela, il se base sur le sport pratiqué et sa fréquence, sur le matériel acheté et sa durabilité, sur le moyen de transport utilisé pour se rendre aux entraînements et aux compétitions, sur le niveau et la fréquence des compétitions, sur le régime alimentaire et sur la visualisation d'événements sportifs à la télévision ou directement dans les tribunes. Afin de respecter les accords de Paris, chaque sportif français devrait avoir une empreinte globale de 2 tonnes maximum. À vous d'aller faire le test en étant honnête et précis, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode, tout comme le rapport de la WWF, le site web de Stadium Go et la vidéo YouTube dont je vous ai parlé plus tôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont réveillés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode sur la COP26 et l'impact du sport dans le réchauffement climatique. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, @sport.kiliantanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.